L'histoire de Merlin l'Enchanteur, chapitre 45. Le beau harpeur. Dès qu'il fut arrivé à l'ogre, avec la reine Guenièvre, il fit crier qu'à la Noël, il tiendrait une cour renforcée à Carduel, et que chacun y amena ses vassaux et sa femme ou son ami. Au jour dit, vinrent les chevaliers et les dames, vêtus de leurs plus riches robes. Et pour la première fois, la reine, comme le roi, porta couronne. Quand les cloches sonnèrent à la grand-messe, on fut entendre l'office chanté par l'archevêque de Brice. Puis la cour revint en la salle du palais, où les nappes mises, les barons prirent place, chacun selon son rang. Messire Gauvin, Que le sénéchal, Lucan le bouteiller, Messire Yvain le grand, Dodinet le sauvage, Sagremort, Yvain la voutre, Giflet, servirent les rois et les reines, et 40 jeunes valets, les hauts hommes et les dames. Comme que le sénéchal présentait le 1er mai au roi Artus, le plus bel homme qui se fût jamais vu entra dans la salle. Sur ses cheveux blonds et ondulés, il avait une couronne d'or, comme un roi. Il était vêtu de pelle brun et d'une côte de samite. Sa ceinture de soie était rehaussée d'or et de pierreries qui jetaient de tels feux que toute la salle en était illuminée, et ses souliers de cuir blanc fermés par des bouclettes d'or. Enfin, une harpe d'argent à cordes d'or, toute décorée de pierres précieuses, lui pendait au col. Malheureusement, il était aveugle, bien qu'il eût les yeux clairs et beaux, mais un petit chien blanc comme la neige, attaché par une chaînette d'or à sa ceinture, le conduisit devant le roi Artus. Là, il se prit à chanter un lai breton, en s'accompagnant de sa harpe, si mélodieusement que le sénéchal, qui portait les mets, oublia tout et s'assit pour l'écouter. Une aventure, vous direz, dont les Bretons firent un lai. À Saint-Malo, deux hauts barons avaient tout proche leur maison. L'un d'eux avait femme épousée, sage, courtoise et bien sensée. L'autre était jeune chevalier, naguère encore bachelier. La femme à son voisin aima, tant la requit, tant la pria, qu'elle lui voulut très grand bien, et le chérit sur toute rien. Des chambres où la dame vit, elle regarde son ami. Mais un haut mur de pierre bise entre eux se lève et les divise. Ils ont des présents échangés, ou par jeter ou par lancer, mais ils ne peuvent en venir du tout ensemble à leur plaisir, car la dame est trop bien gardée, et par son baron surveillée. Tous deux longtemps se sont aimés, tant que revint le bel été. Quand bois et prés sont reverdis, et les vergers tout refleuris, celui qui aime tant et tant, ce n'est merveille s'il entend les oiselets avec douceur mener joie dessus les fleurs. Les nuits où la lune luisait, lorsque son mari reposait, la dame du lit évadée et d'un grand mantel affublé à la fenêtre s'en venait, pour son ami qu'elle y savait, et tant prenait liesse à le voir que plus n'en aurait pu avoir. Si souvent elle se leva que son baron s'en courroussa. « Sire, ce m'est plaisir d'aller ouïr le rossignol chanter. Tant mon délecte le déduit que je n'en puis dormir la nuit. » En entendant cela, le sire, de colère, se mit à rire. Dans sa maison, tous les valets fabriquent raies, lacs et filets. Il n'est pas dans tout le verger de coudriers, de châdaigniers qui ne portent piège ou glu, tant qu'ils ont l'oiseau retenu. Quand, tout vif, le baron le tint, aux chambres de la dame il vint. « Dame, fit-il, où êtes-vous? Venez ici, parlez à nous. J'ai le rossignol attrapé, pour qui vous avez tant veillé. Vous pourrez bien dormir en paix, il ne vous gênera jamais. » Ah, quand elle l'eut entendu, bien dolente la dame fut. Au pied du sire, elle tomba, et le rossignol demanda. Mais lui, méchamment, il l'oxy. De ses deux mains le cou tordit. À sa femme le corps jeta, si que la robe en sanglanta. La dame prend le corps petit, pleure tendrement, et maudit ceux qui les pièges ont fait, et pipé le rossignolet. Elle appelle un sien valet. Elle enveloppe l'oiselet dans une pièce de soie, puis à son bel ami l'envoie. Ce chevalier ne fait vilain, mais courtois et de grâce plein. Il fit un beau coffret forgé, non pas de fer ni d'acier, mais d'or fin et de bonnes pierres, très précieuses et très chères. Dedans le rossignol coucha, le couvercle très bien ferma, puis il fit sceller le coffret. Sur son cœur le porte à jamais. Ici se termine le lait que Marie de France a fait. Le lostic l'appelle-t-on. Ainsi le nomment les Bretons. On dit rossignol en français et nightingale en anglais. Comme le bel aveugle finissait son chant, un chevalier étranger entra dans la salle. En voyant les rois couronnés assis au maître des et le harpeur coiffé d'or, il s'arrêta tout interdit. Mais il se remit bientôt, et s'étant fait montrer le roi Artus, il s'avança vers lui et dit à haute voix « Roi Artus, je ne te salue pas. Celui qui m'envoie à toi ne me l'a pas commandé. Je te dirai seulement ce qu'il te demande. Si tu t'y soumets, tu en auras honneur. Sinon, il te faudra fuir de ton royaume, pauvre et exilé. » « Ami, répondit le roi en souriant, fais-nous ton message. Tu n'auras nul mal de moi ni d'autrui. Roi Artus, à toi m'envoie le seigneur et le maître de tous les chrétiens, le roi Rion des îles, dominateur de l'Occident et de toute la terre. 25 rois déjà sont ses hommes liges. Il les a soumis par l'épée et leur a levé la barbe avec le cuir. Il te demande de te présenter devant lui et de lui rendre hommage. Fais lire ses lettres qu'il t'adresse, et tu entendras sa volonté. » Le roi prit les lettres et les passa à l'archevêque de Brice, qui les déploya et en donna lecture, comme il suit. « Je, le roi Rion, seigneur de toute la terre d'Occident, fais savoir à tous ceux qui ces lettres verront et entendront que je suis à cette heure en ma cour, en compagnie de 25 rois, mes hommes, qui m'ont rendu leur épée et à qui j'ai pris leur barbe avec le cuir. Et en témoignage de ma victoire, j'ai fait fourrer de leur barbe un manteau de samite vermeil, auquel ne manquent plus que les franges. Pour ce que j'ai eu nouvelle de la grande prouesse et vaillance du roi Artus, je veux qu'il soit plus honoré qu'aucun des autres rois. En conséquence, je lui demande de m'envoyer sa barbe avec le cuir, et j'en ferai la frange de mon manteau, pour l'amour de lui. Car mon manteau ne me pendra au col qu'il n'ait sa frange, et je n'en veux d'autre que de sa barbe. Je lui commande donc qu'il me l'envoie par un ou deux de ses meilleurs amis, et qu'il se présente à moi pour devenir mon homme et me rendre hommage. S'il ne le veut faire, qu'il abandonne sa terre et parte pour l'exil, ou bien je viendrai avec mon armée, et je lui ferai arracher sa barbe du menton, et à rebours, qu'il le sache bien. » Quand il eut entendu ces lettres, le roi Artus répondit en riant que l'on n'aurait jamais sa barbe, tant qu'il la pourrait garantir. Sur quoi le messager sortit, et le roi se remit à souper. Le harpeur allait chantant de rang en rang, et chacun s'écriait qu'on n'avait jamais entendu harper d'une façon aussi exquise. Le roi en était émerveillé. À la fin, le musicien lui dit « Sire, je vous demande le prix de mon chant. » « Vous l'aurez, ami, si c'est chose que je puisse donner, sauf mon honneur et mon royaume. » « Sire, je vous demande de porter votre enseigne à la première bataille où vous serez. » « Beau doux ami, notre sire vous a mis en sa prison. Vous êtes aveugle. Comment pourriez-vous nous mener à la bataille ?»« Ah, sire, le chevalier Jésus, qui est le vrai guide et qui m'a tiré de main péril, saura bien me conduire. » En l'entendant si bien répliquer, le roi pensa que c'était là Merlin. Et il allait répondre qu'il octroyait la demande, lorsqu'il s'aperçut que le beau harpeur avait disparu. Et l'on vit à sa place un petit enfant de 8 ans, les cheveux tout ébouriffés et les jambes nues, portant une massue sur l'épaule, qui dit au roi qu'il réclamait de porter son enseigne à la guerre, contre le roi Rion. Sur quoi tout le monde se prit à rire, et Merlin revint à sa forme naturelle. Il aimait de se déguiser ainsi pour divertir et réjouir les chevaliers. Chapitre 46. Fondation de la table ronde. Quand les tables furent levées, il se mit debout, et après en avoir demandé congé au roi, il dit à si haute voix que tous l'entendirent dans la salle. « Seigneur, sachez que le très saint Graal, en quoi notre sire offrit pour la première fois son saint corps, et où Joseph d'Arimathie recueillit le précieux sang qui coula des plaies de Jésus-Christ, a été transporté dans la Bretagne bleue. Mais il ne sera trouvé, et ses merveilles découvertes, que par le meilleur chevalier du monde. Et il est dit qu'au nom de la très sainte Trinité, le roi Artus doit établir la table, qui sera la troisième après celle de la Seine et celle du Graal, et qu'il en adviendra de grands biens et de grandes merveilles à ce royaume. Cette table sera ronde, pour signifier que tous ceux qui s'y devront asseoir n'y auront nulle préséance. Et à la droite de Monseigneur le roi demeurera toujours un siège vide en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne s'y pourra placer sans risquer le sort de Moïse, qui fut englouti en terre, hormis le meilleur chevalier du monde, qui conquérera le Saint Graal et en connaîtra le sens et la vérité. « Je veux, dit le roi Artus, que notre sire ne perde rien par ma faute. » Il n'avait pas achevé ces mots que parut tout soudain au milieu de la salle une table ronde autour de laquelle se trouvaient 150 sièges de bois. Et sur beaucoup d'entre eux, on lisait en lettres d'or « Ici doit soir un tel ». Pourtant, sur celui qui se trouvait en face du fauteuil du roi, nul nom n'était inscrit. « Seigneur, dit Merlin, voyez-ci les noms de ceux que Dieu a choisis pour siéger à la table ronde et pour se mettre en quête du Graal quand le temps sera venu. » Alors, le roi et les chevaliers désignés de la sorte vinrent prendre place en veillant à laisser libre le siège périlleux. Et c'était Messire Gauvin avec les dames oiseaux qui avaient défendu le royaume durant l'absence du roi et les 39 compagnons qui étaient allés en Carmélide. Aussitôt assis, ils se sentirent pleins de douceur et d'amitié. « Beau seigneur, reprit Merlin, lorsque vous entendrez parler d'un bon chevalier, vous ferez tant que vous l'amènerez à cette cour, ou, s'il témoigne qu'il est preux et bien éprouvé, vous le recevrez parmi vous. Car il est dit que le nombre des compagnons de la table ronde s'élèvera à 150 devant que la quête du Graal soit entreprise. Mais il vous faudra le bien choisir. Un seul mauvais homme honnirait toute la compagnie. Et gardez que nul de vous ne s'asseye au siège périlleux, car il lui en adviendrait grand mal. » Messire Gauvin, après avoir consulté ses compagnons, parla ainsi. « De par les chevaliers de la table ronde, dit-il, je fais vœu que jamais pucelle ou dame ne viendra en cette cour pour chercher secours qui puisse être donné par un seul chevalier sans le trouver. Et jamais un homme ne viendra nous demander aide contre un chevalier sans l'obtenir. Et s'il arrivait que l'un de nous disparût, tour à tour ses compagnons se mettraient à sa recherche. » Et chaque quête durerait un an et un jour. Le roi fit apporter les meilleures reliques qu'on put trouver, et tous les compagnons de la table ronde jurèrent, sur les saints, de tenir le serment qu'avait fait en leur nom Messire Gauvin. Et la reine dit à celui-ci, « Beau neveu, je veux, avec la permission de Monseigneur le roi, que 4 clercs demeurent séants, qui n'auront autre chose à faire que de mettre en écrit toutes les aventures de vous et de vos compagnons, afin qu'après notre mort, ils soient mémoire de vos prouesses. Je vous l'octroie, dit le roi, et je fais vœu que, toutes les fois que je porterai couronne, je ne m'assoirai point à manger devant qu'une aventure soit advenue à ma cour. » Lorsqu'ils ouïrent faire tous ces beaux vœux, les chevaliers et les dames qui étaient dans la salle furent très joyeux et satisfaits, jugeant que grand bien et honneur en adviendraient au royaume de l'ogre. Et c'est en ce temps que l'on commença de voir gravé çà et là sur les chemins, en lettres que personne ne pouvait effacer, « C'est le commencement des aventures par lesquelles le lion merveilleux sera pris. Un fils de roi les achèvera. Chaste est le meilleur chevalier du monde. » Chapitre 47. Morgane. Le soir de ce beau jour, quand les chevaliers et les dames furent retournés en leur logis, Guyomard, le cousin de la reine, demeura à causer avec Morgane dans une pièce basse du palais. C'était la sœur du roi Artus. Elle était fort gaie et enjouée et chantait très plaisamment. D'ailleurs brune de visage, mais bien en chair, ni trop grasse ni trop maigre, de belles mains, des épaules parfaites, la peau plus douce que la soie, avenante de manière, longue et droite de corps, bref, charmante à miracle. Avec cela, la femme la plus chaude et la plus luxurieuse de toute la Grande-Bretagne. Merlin lui avait enseigné l'astronomie et beaucoup d'autres choses, et elle s'y était appliquée de son mieux, de façon qu'elle était devenue bonne clergesse et qu'on l'appela plus tard Morgane la fée, à cause des merveilles qu'elle fit. Elle s'exprimait avec une douceur, une suavité délicieuse, et elle était plus débonnaire et attrayante que personne au monde, lorsqu'elle était de sang-froid. Mais, quand elle en voulait à quelqu'un, il était difficile de l'apaiser, et on le vit bien par la suite, car celle qu'elle aurait dû le plus aimer, elle lui fit tant de peine et de honte que tout le monde en causa. Et ce fut la reine Guenièvre. Le comte ne parle pas de cela à cet endroit, car il en sera devisé plus loin, et ce serait dommage de démembrer un si beau conte. Il faut le laisser aller son train. Quand Guyomard entra dans la chambre où Morgane était, il la salua bien doucement en lui disant que Dieu lui donna bonjour, et elle lui rendit son salut débonnairement, et comme celle qui a la langue bien pendue. Alors il s'assit auprès d'elle. Elle dévidait du fil d'or dont elle voulait faire une coiffe pour sa sœur, la femme du roi Lot d'Orcanie. Il se mit à l'aider en lui demandant à quel ouvrage elle travaillait, et à la mettre en parole sur diverses choses. Il était beau chevalier, gracieux et bien fait, riant, blond de cheveux et agréable de toute façon, comme un homme de 28 ans ou environ, de manière qu'elle le regarda très volontiers. De même, elle lui plut fort, si bien qu'il la pria d'amour. Et, quand il s'aperçut qu'elle souffrirait de bon cœur ce dont il la voulait requérir, il commença de la prendre dans ses bras et de la baiser très doucement. Puis, s'étant échauffés de la sorte, comme nature le voulait, ils s'étendirent tous deux sur une couche grande et belle et firent le jeu commun, comme gens qui tous deux le désiraient. Car, s'il le souhaitait, autant le souhaitait-elle. Alors ils s'entr'accueillirent de grand amour, et ce soir-là ils demeureront longtemps ensemble. Puis ils s'aimèrent longtemps sans que nul ne le sût. Mais un jour, la reine Guenièvre la prit et les sépara. Dont Morgane la haït et lui fit les pires ennuis. Mais le comte à présent laisse ce propos et devise du roi Artus. Chapitre 48. Fin du roi Rion. Quelque temps après qu'il eut établi la table ronde, il rassembla ses barons et s'en fut attaquer Rion, le roi mécréant. Et, lorsque les deux armées furent en présence, il y eut encore maintes merveilles d'armes et de grands massacres. Mais grâce aux chevaliers de la table ronde et à Merlin, qui portait le dragon flamboyant au milieu de la mêlée, on vit plus de païens tués que de chrétiens. Alors le roi Rion cueillit un rameau de sycomore et, le tenant à bout de bras, galopa entre les deux armées pour les séparer. Puis il cria si haut que tout le monde l'entendit. « Roi Artus, pourquoi souffrons-nous que ta jante et la mienne se détruisent? Faisons reculer nos deux armées et combattons-nous. Le vaincu se proclamera le vassal du vainqueur et lui donnera sa barbe avec le cuir. » Artus ayant accepté, les deux rois prirent du champ et se jetèrent l'un contre l'autre comme tempête. Leurs lances rompues, ils saisirent leurs épées, dont ils se déchargèrent de tels coups que bientôt ils eurent rompu les cercles de leurs aumes et éparpillé les fleurons qui les ornaient, ainsi que les gemmes, dont certaines pourtant avaient de grandes vertus. Le roi Rion était bon chevalier, mais Artus lui tua son destrier, de façon qu'il chut à terre, et il reçut, au moment qu'il se relevait, un grand coup sur la tête, qui le fit chanceler et retomber tout de son long, en mugissant comme un taureau. Aussitôt Artus sauta de son cheval, courut à lui, lui arracha son aume d'une seule main, si rudement qu'il en rompit les lacets, et lui coupa le cou. Ainsi périt le roi Rion. Chapitre 49. La demoiselle au nain. Alors le roi Artus donna congé à ses barons, après leur avoir fait de grandes largesses. Puis il revint à l'ogre, où il mena bonne vie durant quelque temps. Un jour qu'il était à son haut manger avec ses prud'hommes, une demoiselle d'une grande beauté entra dans la salle, qui tenait dans ses bras le nain le plus contrefait qu'on eût jamais vu, car il était maigre et camu, les sourcils roux et recroquevillés, les cheveux gros, noirs et emmêlés, la barbe rouge et si longue qu'elle lui tombait jusque aux pieds, les épaules hautes et courbes, une grosse bosse par devant, une autre par derrière, les jambes brèves, les chines longues et pointues, les mains épaisses et les doigts courts. « Sire, dit au roi la demoiselle, je viens à vous de bien loin pour réclamer un don. « Demoiselle, demandez ce qu'il vous plaira, je vous l'octroierai, si ce n'est chose qui aille contre mon honneur et celui de mon royaume. « Sire, je vous prie et requiert d'armer chevalier ce franc damoiselle, mon ami que je tiens dans mes bras. Il est preux, hardi et de gentil lignage, et s'il l'eût voulu, il eût été adoubé par le roi Pélès de Listenois. Mais il a fait serment de ne l'être que par vous. » À ces mots, tout le monde se mit à rire, et que le sénéchal, qui était moqueur et piquant en parole, s'écria « Gardez-le bien, demoiselle, et tenez-le près de vous de peur qu'il ne vous soit enlevé par les pucelles de madame la reine. » Mais à ce moment, on vit entrer dans la cour du palais deux écuyers montés sur des bons roussins. L'un portait une épée et un écu noir à trois léopards d'or couronnés d'azur, et l'autre menait en laisse un petit destrier fort bien taillé dont le frein était d'or et les rênes de soie. Un sommier les suivait, chargé de deux beaux et riches coffres. Ils attachèrent leurs chevaux à un pin, ouvrirent les malles et en tirèrent un minuscule aubert et des chausses à double maille d'argent fin, puis un aume d'argent doré qu'ils apportèrent à la demoiselle. Elle-même sortit de son aumônière deux petits éperons d'or, enveloppés dans une pièce de soie. Que le sénéchal les prit et finit de vouloir en chausser le nain, déclarant qu'il le ferait chevalier de sa main. « S'il plaît à Dieu, nul ne le touchera sinon le roi Artus, » dit la demoiselle. « Seul un roi peut mettre la main sur un si haut homme que mon ami. » Artus chaussa donc l'un des éperons au pied droit du nain, tandis que la demoiselle lui bouclait l'autre. Puis il le vêtit du haubert, lui ceignit l'épée et lui donna la collée en lui disant, selon sa coutume, « Dieu vous fasse prud'homme. » « Sire, demanda encore la demoiselle, priez-le d'être mon chevalier. » À quoi le roi consentit encore. « Je vous l'octroie, demoiselle, dit le nain, puisque le roi le veut. » Là-dessus, il fut enfourcher son petit destrier, qui était de toute beauté et bien armé de fer. La demoiselle l'y aida, puis elle lui pendit l'écu au col, monta elle-même sur sa mule, et tous deux, suivis de leurs écuyers, s'enfuirent par la forêt aventureuse. Chapitre 50. Le géant du Mont-Saint-Michel. Et vers ce temps, comme le roi Artus était venu à Carmalot, il eut nouvelle d'un géant qui ravageait le pays de la Petite-Bretagne. Le monstre avait son repère, disait-on, sur une montagne qui était entourée de mer et qu'on appelle maintenant le Mont-Saint-Michel, au péril de la mer. Et il ruinait tout le pays alentour, d'où les hommes et les femmes s'étaient enfuis. Ils vivaient dans les bois comme des bêtes sauvages. Un soir, le roi dit à queue le sénéchal et un chevalier qui avait nom Bédoyer de se préparer, et tous trois, s'étant mis en mer, arrivèrent sous un rocher, à quelque distance du mont, qu'ils gravirent hardiment. Ils n'y trouvèrent qu'une vieille femme, toute flétrie, qui pleurait et lamentait, assise sur une tombe fraîchement creusée, à côté d'un grand feu, dans la nuit. « Ah, gentil chevalier, dit-elle en les voyant, que venez-vous faire ici? Si le géant vous découvre, il vous faudra mourir. Fuyez !»« Bonne femme, répondit le roi, laisse tes pleurs et dis-nous qui tu es et quelle est cette tombe. » « C'est celle d'une gente pucelle, Hélène, la fille de Lionel de Nantoël. Je l'allaitais de mes mamelles. Le géant nous a prises et il a emporté ma chère fille dans son repaire pour la violer. Mais elle était si jeune et si tendre qu'elle n'a pu supporter sa vue et qu'elle est morte d'horreur entre ses bras. Quand elle eut ainsi expiré, ce diable me garda pour éteindre sa luxure sur moi. Et il m'a tant corrompu qu'il me faut souffrir sa volonté en dépit de moi-même. Mais notre sire m'est garant que c'est contre mon gré. Fuyez ! À cette heure, le géant est sur le mont, là-bas, où vous voyez flamboyer un bûcher. S'il vient ici, vous êtes mort. » Mais le roi Artus et ses compagnons reprirent leur bateau et allèrent aborder au mont. Sur le sommet, ils découvrirent en effet le géant assis devant la flamme qui faisait rôtir de la viande embrochée à un grand épieu et la dévorait à peine cuite. Il les aperçut bien, quoiqu'il n'en eût pas fait semblant tout d'abord, tant il était déloyal et malicieux. Et soudain, il sauta sur un tronc de chêne qui lui servait de massue, courut su au roi Artus et voulut lui en asséner un coup qui l'eût réduit en fumée. Heureusement, le roi était merveilleusement vite et léger. Il évita le choc par un saut de côté et dans le même temps frappa si adroitement le géant entre les sourcils de sa bonne épée marmiadoise qu'il l'aveugla. Alors le monstre, jetant sa massue à terre, commença d'avancer en tâtonnant et en essayant de saisir son adversaire, qu'il apercevait comme une ombre quand il passait sa main sur ses yeux pour en essuyer le sang. Vainement, Artus se défendait à coups d'épée. Le géant avait une cuirasse faite des peaux de certains serpents qui vivent dans l'Inde, et rien ne l'entamait. Il finit par saisir le roi et le serra de telle force qu'il s'en fallut de peu qu'il ne lui broyât l'échine. En même temps, il coulait la main le long de son bras pour lui prendre son épée. Mais Artus laissa choir marmiadoise qui sonna en tombant, et au moment que le géant se baissait pour la ramasser, il lui donna un si rude coup de genou dans les parties sensibles que le méchant se pâma. Aussitôt le roi se dégage, ramasse son arme et, soulevant la cuirasse, perce le cœur du monstre et coupe l'horrible tête. En revenant à Camaalot avec ses compagnons, il trouva ses barons tout effrayés de son absence, qui se signèrent et s'étonnèrent beaucoup quand ils virent la tête pendue par les cheveux à l'arçon de la selle de Bédoyer, car jamais il n'en a été de si grande. Et c'est depuis ce temps que le rocher voisin du mont, où la fille de Lionel de Nantoël est enlevée, fut nommé la tombe Hélène. Chapitre 51. Quête de Merlin. Peu après, Merlin vint dire au roi et à la reine qu'il lui fallait les quitter. Ils le prièrent doucement de revenir bientôt, car il l'aimait tendrement. « Bel ami Merlin, lui dit le roi, vous vous en irez, je ne vous veux retenir contre votre désir, mais je serai dolent jusqu'à temps que je vous revoie. Pour Dieu, hâtez-vous. » « Sire, répondit-il en pleurant, hélas, c'est la dernière fois, et je vous recommande à Dieu. » En entendant « c'est la dernière fois », le roi fut surpris, mais il crut qu'il avait mal compris. Pourtant, quand il vit que 7 semaines avaient passé et que Merlin ne revenait pas, il se ressouvint de ces mots, et il fut longtemps tout pensif et morne. À la fin, Messire Gauvain lui demanda ce qu'il avait. « Beau neveu, répondit le roi, je pense que j'ai perdu Merlin, et j'aimerais mieux d'avoir perdu la cité de l'ogre.
« Sire, je vous jure par le serment que je vous fis le jour où vous m'armâtes chevalier, que je le chercherai de tout mon pouvoir durant 1 an et 1 jour. »
Et, en même temps que Messire Gauvain, jurèrent ses frères et y vint le grand, Sagremort, Giflé le fils d'eau, Colas le roux, Placide le guet, Laudalys de la plaigne, Aiglin des veaux, Cléalis l'orphelin, Guiret de l'emballe, Quédin le bel, Claro de la broche, Yvain au blanchemain, Gozenin d'Estrangor, Ségurade de la forêt périlleuse, Ladiner et Ladinas de Norgal, Satran de l'étroite marche, Purade de Carmélide, Carmaduc le noir, et quelques autres. Et tous s'éloignèrent de Carmalotte le même jour. Mais ils se séparèrent à une croix d'où partaient divers chemins, et, après qu'ils se furent recommandés à Dieu, chacun s'en fut à son aventure. Maintenant, le comte laisse ce propos et revient au chevalier nain et à la demoiselle Samy qui chevauchent par monts et par veaux. Chapitre 52. Vaillance du nain. Un jour qu'ils traversaient une grande lande, ils virent venir à eux un chevalier monté sur un destrier pie, qui, du plus loin qu'il les aperçut, s'écria « Ah, soyez la bienvenue, mademoiselle, mamie, enfin j'ai trouvé ce que je cherche depuis toujours. » « Sire, répondit le nain tout doucement, ne soyez pas si pressé, vous n'avez pas encore cette demoiselle en votre pouvoir. « Je l'aime comme si je la tenais déjà, et je la tiendrai sous peu. » En voyant le chevalier approcher, le nain met lance sur feutre, disparaît derrière son écu, de telle façon qu'on ne voyait plus que son œil, pique des éperons par 2 trous qu'on avait faits dans sa selle, car ses courtes jambes n'en dépassaient pas les quartiers, et, criant à son adversaire de se garder, vole sur lui de toute la vitesse de son cheval. « À Dieu ne plaise que je joute contre un tel géant !» s'écrie l'orgueilleux chevalier. Et sans même croiser sa lance, il oppose dédaigneusement son écu au choc. Mal lui en prit, car le nain le heurta si rudement qu'il le jeta à bas de son cheval en lui démettant l'épaule. Après quoi, il fit passer et repasser son destrier sur lui, de façon que le chevalier, tout froissé, se pâma de douleur. Enfin, le minuscule champion pria la demoiselle de le mettre à terre, ce qu'elle fit en le prenant dans ses beaux bras comme un enfant, et il courut au blessé, dont il délassa le home en le menaçant de lui couper le cou s'il ne s'avouait vaincu. « Merci !» cria le blessé. « Iras-tu te rendre prisonnier au roi Artus et lui dire de par moi que le petit chevalier qui l'adouba l'envoie à lui ?» Le chevalier le jura. Alors le nain requit la demoiselle de le hisser sur son destrier, ce qu'elle fit à grand-peine en se penchant sur le cou de sa mule. Puis tous deux furent avertir les écuyers du blessé, et ils continuèrent leur route vers Estrangor. C'est ainsi que le roi Artus et la reine Guenièvre virent arriver quelques jours plus tard à Carduel, en Galles, couchés dans une belle litière que portaient 2 palefrois en blanc, un chevalier navré. « Sire,
dit celui-ci. « Je viens me mettre en ta merci, plein de honte et de vergogne, pour acquitter ma foi que j'ai engagée à la plus ridicule créature du monde, qui m'a vaincu par ses armes. »
« Dites-moi donc, répondit le roi, de par qui vous vous rendez prisonnier et comment vous avez été conquis ?»«
Sire, j'aime la belle Biane, fille du roi Clamadieu. Je l'eusse volontiers prise pour femme, car je suis fils de roi et de reine. Mais ni par prière, ni par amour, ni par prouesse, je n'ai pu gagner son cœur. » L'autre soir, je la rencontrai en compagnie du nain contrefait dont elle est l'amie, et je n'ai pas daigné croiser la lance contre lui. Mais il m'a renversé et démis l'épaule, et il ne m'a fait grâce de la vie qu'à la condition de me rendre prisonnier à vous.
« Belle amie, dit le roi, il vous a mis en bonne et douce prison. Mais dites-moi quel est ce chevalier nain, je vous libérerai à ce prix. »
« Sire, c'est le fils du roi Brangor d'Estrangor, qui est haut homme, puissant en terre et en ami, et loyal envers Dieu. »«
Certes, il est prud'homme, dit Artus, et je m'étonne que notre sire lui ait donné un tel héritier. » »«
Il y a 2 ans, cet avorton était la plus belle créature du monde. Le fol et Vadéan, mon père, me l'a souvent dit. » Une demoiselle qu'il ne voulait aimer l'enchanta. Je n'en sais pas plus. Et maintenant, sire, si vous me donnez congé, je m'en irai avec ma honte.
Allez, beau doux ami, fit le roi, et que Dieu vous conduise.
À présent, le comte retourne à Monseigneur Gauvin. Chapitre 53. Gauvin puni. S'étant séparé de ses compagnons, il erra longtemps par la terre de l'ogre. Un jour qu'il chevauchait dans une forêt, pensif, et songeant tristement qu'il n'avait nouvelle de Merlin, il croisa une demoiselle montée sur le plus beau palfroy du monde, noire, harnachée d'une selle d'ivoire aux étriers dorés, dont la housse écarlate battait à terre, et dont le frein était d'or et les rênes d'or froid. Elle-même était vêtue de samite blanc, et pour éviter le hâle, elle avait la tête voilée de lin et de soie. Gauvin, perdu dans sa rêverie, ne la vit pas. Alors, après l'avoir dépassée, il fit tourner son palfroy et lui dit « Gauvin, on assure que tu es le meilleur chevalier du monde, et c'est vrai, mais on ajoute que tu en es le plus courtois, et ici cloche la renommée, car tu en es le plus vilain. Tu me rencontres seul en cette forêt, loin de tous, et tu n'as pas même la douceur et l'humilité de me saluer et de me parler. » « Demoiselle, fit Gauvin tout confus, je vous supplie de me pardonner. »
« S'il plaît à Dieu, tu le paieras cher, et une autre fois, tu te souviendras de saluer les dames quand tu les rencontreras. Je te souhaite de ressembler au premier homme que tu verras. »
Or, messire Gauvin n'avait pas chevauché une lieue galloise qu'il croisa le nain et Samy. Dès qu'il aperçut la demoiselle, il se rappela la leçon qu'il venait de s'attirer et s'y empressa de la saluer.
« Que Dieu vous donne joie et à votre compagnie !»«
Que Dieu vous donne bonne aventure !» répliquèrent courtoisement le nain et la demoiselle. Et, à peine l'avait-il dépassé, le nain sentit qu'il reprenait sa première forme, et il devint un jeune homme de 22 ans, droit, haut et large d'épaule, si bien qu'il lui fallut ôter ses armes qui n'étaient plus à sa taille. Quand elle vit son ami retrouver ainsi sa beauté, la demoiselle lui jeta ses bras au col et le baisa plus de 100 fois de suite. Et tous deux remercièrent notre Seigneur et s'en furent à grande joie, bénissant le chevalier qui leur avait ainsi porté bonheur. Cependant, messire Gauvin n'avait pas chevauché 3 traits d'arc qu'il sentit les manches de son haubert lui descendre au-delà des mains et les pans lui en couvrir les chevilles. Ses 2 pieds n'atteignaient plus les étriers et son écu s'élevait maintenant au-dessus de sa tête, en sorte qu'il comprit qu'il était devenu nain. Il en fut si peiné qu'il s'en fallut de peu qu'il ne s'oxyde. À la lisière de la forêt, Il s'approcha d'un rocher sur lequel il descendit, et là, il raccourcit ses étrivières, releva les manches et les pans de son haubert, et aussi ses choses de fer, qu'il fixa par des couronnes. Bref, il s'accommoda du mieux qu'il put. Après quoi, il reprit sa route, bien angoissé pour accomplir son serment. Mais vainement, il demandait à tous des nouvelles de Merlin. Il ne recueillait que moqueries et brocards, et personne au reste n'en savait. Quand il eut parcouru tout le royaume de l'ogre, et qu'il vit que le temps de son retour approchait, il se désola plus que jamais. « Ah ! Pensait-il, que ferai-je ? J'ai juré à monseigneur mon oncle de revenir après un an et un jour. Et pourtant, comment oserais-je me montrer à sa cour, ridicule et défigurée comme je suis ? Mais je ne me parjurerai point. » Chapitre 54. La prison d'air. Rêvant ainsi, il était entré dans la forêt de Brocéliande. Tout à coup, il s'entendit appeler par une voix lointaine, et il aperçut devant lui une sorte de vapeur qui, pour aérienne et translucide qu'elle fût, empêchait son cheval de passer. « Comment ? Disait-elle. « Ne me reconnaissez-vous plus ? Bien vrai le proverbe du sage. Qui laisse la cour l'oublie. »« Ah, Merlin, est-ce vous ? » s'écria messire Gauvain. « Je vous supplie de m'apparaître et que je vous puisse voir. »« Las, Gauvain, reprit la voix, vous ne me verrez plus jamais. Et après vous, je ne parlerai plus qu'à mamie. » « Le monde n'a pas de tour si forte que la prison d'air où elle m'a enserré. »« Quoi, vos doux amis, êtes-vous si bien retenu que vous ne puissiez vous montrer à moi ? Vous, le plus sage des hommes ?»« Non pas, mais le plus folle, reprit Merlin, car je savais bien ce qui m'adviendrait. Un jour, que j'errais avec mamie par la forêt, je m'endormis au pied d'un buisson d'épines, la tête dans son giron. » Lors, elle se leva bellement et fit un cercle de son voile autour du buisson. Et quand je m'éveillais, je me trouvais sur un lit magnifique, dans la plus belle et la plus close chambre qui ait jamais été. « Ah, dame, lui dis-je, vous m'avez trompé. Maintenant, que deviendrai-je si vous ne restez séant avec moi ? Beau doux ami, j'y serai souvent et vous me tiendrez dans vos bras, car vous m'aurez désormais prête à votre plaisir. » Et il n'est guère de jour ni de nuit que je n'ai sa compagnie, en effet. Et je suis plus folle que jamais, car je l'aime plus que ma liberté. Beau sire, j'en ai grand chagrin. Et le roi, mon oncle, qu'en pensera-t-il quand il le saura, lui qui vous fait chercher par toutes terres et pays ? Il le lui faudra souffrir, car il ne me verra jamais plus, ni moi, lui, et nul après vous ne me parlera. Or, retournez-vous-en. Saluez pour moi le roi et madame la reine et tous les barons, et contez-leur mon aventure. Vous les trouverez à Carduel, en Galles. Et ne vous désespérez pas de ce qui vous est advenu. Vous retrouverez la demoiselle qui vous a enchanté. Cette fois, n'oubliez pas de la saluer, car ce serait folie. Allez à Dieu, et que notre sire garde le roi Artus et le royaume de l'ogre, et vous, et tous les barons, comme la meilleure jante qui ont que fût. » Telles furent les dernières paroles de l'enchanteur. Et le nain Gauvain se remit en route vers Carduel, heureux ensemble et dolent, heureux de ce que Merlin lui prédisait la fin de son aventure, dolent de ce que son ami fut ainsi perdu à toujours. Chapitre 55. Gauvain guérit. Quand il traversa la forêt, où il avait croisé la demoiselle qui lui avait jeté ce mauvais sort, il craignit si fort de la rencontrer et de ne pas la saluer qu'il ôta son aume pour mieux voir. Il aperçut ainsi, à travers les buissons, deux chevaliers à pied qui avaient attaché les rênes de leurs chevaux à leurs lances fichées en terre. Ils tenaient sur le sol, par les jambes et les mains, une demoiselle qui se tordait pour leur échapper, et faisait semblant de la vouloir forcer. Aussitôt il avança, lance sur feutre, et leur cria « Vous méritez la mort de faire ainsi violence à une demoiselle sur la terre du roi Artus. Ne savez-vous qu'elles y sont assurées contre tous ?»«
Ah, Gauvin !» s'écria la pucelle. « Maintenant je verrai s'il y a assez de prouesse en vous pour que vous me délivriez de cette honte. »
À ces mots, les chevaliers lacèrent leurs aumes.
« Pardieu ! Folle nain contrefait, vous êtes mort !»«
Si ridicule chose que je sois, montez, car il me semblerait vil d'attaquer à cheval des hommes à pied. »
« Vous fiez-vous donc tant à votre force ?»«
Je me fie tant en Dieu que je m'assure que vous n'outragerez plus jamais ni dame ni demoiselle en la terre du roi Artus. »
Et ce disant, il se jette sur eux et les combat si adroitement que bientôt l'un d'eux gît à terre. Déjà il courait su à l'autre lorsque la demoiselle lui cria
« Messire Gauvin, n'en faites pas plus !»«
Pour l'amour de vous, je m'arrêterai donc. » répondit-il, « et que Dieu vous donne bonne aventure, à vous et à toutes les demoiselles du monde. Mais s'il n'était votre père, je les tuerais, car ils vous ont fait trop de honte et à moi trop de vilenie en m'appelant nain contrefait. »
À ces mots, la demoiselle et les deux chevaliers se mirent à rire, et elle lui dit, « Qui vous guérirait? Que lui donneriez-vous ?
Ah, si c'était possible, moi-même premièrement. Et ensuite, tout ce que je peux avoir au monde.
Je ne vous en demande pas tant, mais seulement que vous fassiez serment de toujours aider et secourir les dames, et de les saluer quand vous les rencontrerez.
Je le jure sur ma foi, de bon cœur.
Eh bien, je prends votre serment, mais sachez que si vous y manquez jamais, vous reviendrez en l'état où vous êtes présentement. »
Et comme elle disait ces mots, Messire Gauvin sentit ses membres s'allonger. Les courroies dont il avait lié son haubert et ses chausses rompirent, et il reprit sa forme première. Aussitôt il descendit de son destrier et s'agenouilla devant la demoiselle, en lui disant qu'il serait son chevalier désormais. Dont elle le remercia en le relevant par la main. Après quoi, tous se séparèrent en se recommandant à Dieu.
Chapitre 56. Naissance d'Hector, de Lancelot, de Lionel et de Bor. Messire Gauvin arriva à Garduel en même temps que les chevaliers qui étaient partis en sa compagnie pour quêter Merlin et qui revenaient comme lui après un an et un jour. Le roi les reçut à grande joie et tous dirent leurs aventures dont les barons s'émerveillèrent beaucoup. Quand vint le tour de Monseigneur Gauvin, le roi fut très dolent d'apprendre l'enserrement de Merlin, mais joyeux de savoir comment son neveu avait échappé à l'enchantement de la demoiselle. Et il ordonna que les clercs couchassent tous ces récits par écrit, grâce à quoi nous les connaissons aujourd'hui. Cependant, en la Petite-Bretagne, la fille d'Agravadin avait accouché d'un fils qui fut appelé Hector des Mares. Et elle refusa de se marier pour se consacrer à lui. Peu après, la reine Hélène, femme du roi Ban de Benoïc, avait eu un enfant, la plus belle créature du monde, lequel fut baptisé Galaad, mais qui eut nom Lancelot toute sa vie. Puis, la femme du roi Bor avait mis au monde un valet, si belle et si jante que c'était merveille. Et sitôt qu'il fut né, l'on vit qu'il portait sur la poitrine l'image d'un lion couronné de couleur de sang, à cause de quoi il fut appelé Lionel. Et sa mère ne tarda guère à lui donner un frère qu'on nomma Bor, comme son père, et qui fut plus tard de haute prouesse. Et tous trois furent compagnons de la table ronde et allèrent à la quête du Saint Graal. Et ils se firent une grande renommée au royaume de l'Ogre, et sur toute la terre par leur chevalerie. Mais ici finit l'histoire de Merlin, et ensuite commence celle de Lancelot. Que Dieu nous mène tous à bonne fin. Amen.